Notre série « Qui suis-je? » En fait, c'est une série « Qui suis-je? » C'est dans la Bible, Dieu se révèle de plusieurs façons et sa personnalité est révélée à travers son nom. Et il y a plusieurs noms que Dieu utilise pour vraiment dévoiler qui il est spécifiquement. Et bien entendu, il y a vraiment plusieurs noms et on ne regardera pas tous les noms, mais cette série que nous poursuivons jusqu'à Noël va nous amener à chaque dimanche à voir une caractéristique, une particularité de ce que Dieu est et ce qu'il peut faire dans nos vies. La semaine dernière, on a vu que, en fait, l'Éternel est ici et en fait que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, que l'Éternel peut habiter en nous quand on l'invite à venir. Ce matin, c'est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Et souvent, quand on pense à ça, l'affaire qui nous vient premièrement en tête, c'est quoi? C'est l'Éternel qui guérit nos souffrances physiques. Une maladie, c'est l'Éternel qui guérit. Mais on va voir ensemble ce matin dans trois domaines dans lesquels Dieu guérit et pourquoi il est l'Éternel qui guérit. Donc ce matin, même si vous ne souffrez pas dans votre corps, soyez attentifs parce que c'est beaucoup plus que ce qu'on pense habituellement. Et en fait, dans Exode 15, verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Et ici, en fait, si on regarde le contexte de pourquoi Dieu s'est révélé de cette façon-là, même si vous n'êtes pas familier avec la Bible, tout le monde connaît l'histoire de Moïse, les dix plaies d'Égypte, hein, les sauterelles, les grenouilles, et on ne passera pas à travers tout ça, je pense que vous avez compris. Et les Israélites sont en esclavage en Égypte. Ils ont crié à Dieu, et ils ne sont pas ramassés là par hasard, parce que, évidemment, encore une fois, ils ont désobéi à Dieu, ils se retrouvent là, ils sont pris, et là, la prière est montée jusqu'à Dieu, Dieu a eu compassion de son peuple, encore une fois, et là, Dieu envoie Moïse et Aaron pour délivrer le peuple, et là, on voit ces dix plaies-là, où à un moment donné, c'est insoutenable, et finalement, Moïse et tout le peuple sortent d'Égypte, et s'en vont. Mais le Pharaon met derrière eux l'armée des Égyptiens pour aller les combattre, les abattre, d'aller les rechercher. Et là, on connaît toute l'histoire où, devant la mer s'est ouverte, les Israélites sont passés à sec, et ensuite de ça, toute l'armée s'est pointée dans l'eau, et au beau milieu de tout ça, Dieu a englouti toute l'armée avec la mer. Quel miracle incroyable! Et après ça, on se retrouve au chapitre 15. Où là, justement, il y a ce chant-là qui est écrit, où justement, l'Éternel est ma force, le cheval de son cavalier, il faut le jeter dans la mer. Et là, c'est la célébration. Imaginez la fête. Tu étais esclave. Miraculeusement, tu vois toute la patente, c'est Dieu. Ça peut pas être autrement. Tu sors de là, tu arrives devant le premier obstacle qui est la mer. Dieu ouvre la mer devant tes yeux. Tu passes à sec. Il y a carrément deux murs d'eau. Si tu ne croyais pas à ce moment-là, là, c'est comme, tu n'as plus le choix. Là. On s'entend? Passe à sec, tu fais comme, ouais. Tu touches à l'eau en passant. Hein? Tu fais comme, sérieux? Et là, tu te penses comme, wow, nous autres, on l'a l'affaire. Dieu est avec nous. Et il arrive de l'autre côté. Et là, en plus de ça, c'est même pas tout. Parce que l'armée les suit. Et là, ils voient devant leurs yeux leurs assaillants être engloutis. Là, c'est final. Là, c'est comme, wow, et là, tout le monde s'élève et ça va bien. Il marche trois jours. Pas trois semaines, pas trois mois, pas trois ans, trois journées. Et ils arrivent devant, justement, le rocher, puis là, il n'y a pas d'eau, là. Là, ils veulent boire et il n'y a pas d'eau. Et c'est là que les problèmes commencent. Juste seulement trois jours après. Le peuple commence à chialer puis à murmurer. Contre Dieu, contre Moïse, c'est là où on veut qu'on commence déjà à vouloir retourner. Hey, on était mieux en Égypte. Hey, puis là, on n'a pas d'eau, puis là, c'est ci, c'est ça. Au lieu tu viens, il y a trois jours, c'est pas quelque chose, c'est un souvenir lointain, ouais, quand j'avais 5 ans. Non! Il y a trois jours, tu ne peux pas l'avoir oublié. Comment tu peux avoir oublié ça? C'est impossible en trois jours. Mais tout de suite, c'est comme si on met ça de côté. Ouais, Dieu t'a agi là, mais maintenant, c'est comme si Dieu ne peut plus le faire. Comment? Et à cause de ça, ici, justement, Dieu va parler à Moïse, va dire au peuple, si tu tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappée. Toutes les plaies d'Égypte, Dieu est en train de promettre quoi? Dieu promet que tu n'auras pas ces plaies-là, ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Mais il dit quoi? Si tu suis mes prescriptions. Pas si tu continues d'être un chialeux, un désobéissant, puis de faire à ta tête. Il dit, si tu suis mes prescriptions, il dit, je vais être l'Éternel qui te guérit. Et le mot guérir ici veut dire réparer. Dieu veut nous réparer. Ce matin, j'ai quelques mauvaises nouvelles pour toi, mais j'en ai quelques bonnes aussi. Et la première mauvaise, c'est que tu es brisé. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu es brisé. Vous êtes brisé, je suis brisé. Et Dieu veut nous réparer. Dieu veut réparer ce qui est brisé en nous. Quand l'Éternel veut guérir, Dieu qui guérit, c'est l'Éternel qui répare. Le Dieu qui répare nos vies. Dans Jérémie 33, 6, ça dit « Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. » Oui, Dieu veut nous guérir physiquement. Et ce matin, comme j'ai dit, le point de ce message-là, ce n'est pas de vous convaincre, est-ce que Dieu guérit encore? Ce n'est pas ça. Le point, c'est que oui, Dieu guérit. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui, il peut le faire parce qu'il est le même éternellement, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu peut guérir. Dieu, il peut le faire, physiquement. Mais il veut le faire plus que ça. Et souvent, malheureusement, on s'arrête à ça. C'est comme si, pour nous, la guérison, c'est quelque chose de physique. C'est que tant que je ne suis pas malade dans mon corps, je n'ai pas besoin du Dieu qui guérit. Parce qu'il appartient juste à ceux qui sont malades. C'est le Dieu des malades. Et la journée où, physiquement, j'ai un problème, j'ai une maladie, il y a quelque chose qui sévit dans mon corps, là, je dois faire appel au Dieu qui guérit. Et vraiment, oui, il faut le faire. Dieu guérit. Et ce matin, on va prendre le temps. Si vous êtes malade dans votre corps, on va prier pour vous ce matin, à la fin de la réunion. Mais on ne s'arrêtera pas à simplement l'aspect physique. Parce que pour Dieu, c'est un des aspects de la guérison, un des aspects de la réparation que Dieu veut opérer dans nos corps. Dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5, ça dit, « Pourtant, et ici, c'est 400 ans avant la venue de Jésus, c'est une prophétie qui parle de Jésus qui va venir sur la terre et qui va justement être celui qui est le sauveur, qui est celui qui va mourir sur la croix pour nous. » Et ça dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et ici, malheureusement, on ne peut pas arriver et dire « Ah, c'est Dieu qui guérit notre corps physiquement. » Parce que essentiellement ici, ça parle de quelque chose d'autre. Ça dit que c'est nos fautes qu'il a portées. Et ça dit qu'il était brisé. Pourquoi est-ce que Jésus peut nous réparer? Et pourquoi est-ce que justement, nous aussi, on est brisés aujourd'hui? Bien, ça dit que Jésus a été brisé pour nous. Et à cause des fautes, nos péchés qu'il a portés, mais c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, à travers les meurtrissures de la croix, à travers le sang qui a été versé, à travers le fait qu'il a donné sa vie sur la croix, nous sommes guéris de notre péché. Ça, c'est la deuxième guérison, la guérison spirituelle, qui est en fait la première des guérisons et celle qu'on laisse souvent de côté. La guérison, Jésus veut nous réparer spirituellement. C'est ce qu'il est venu faire, essentiellement. Dans 1 Jean 1,8, ça dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle pour vous ce matin. T'es pécheur. T'es brisé, t'es pécheur. Ça va bien? Restez jusqu'à la fin, les bonnes nouvelles s'en viennent. Attends un peu, patience. Et ça dit que si tu confesses tes péchés, Jésus est venu sur la croix pour justement pardonner tes péchés. Ce qu'aucun homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Et Dieu veut te réparer spirituellement. au-delà de ta... Parce que souvent, on s'arrête au corps physique. On s'arrête à notre corps physique, puis on dit, il faut absolument que je sois en pleine santé, puis c'est bien. Puis si je suis malade, il faut trouver les moyens pour guérir de cela ou les moyens pour se sortir de notre état. Et Dieu peut nous guérir instantanément, Dieu peut nous guérir éventuellement de notre maladie, notre corps. Mais le truc est que si je m'attarde juste à la guérison physique, ça ne me donne pas plus accès au ciel. Parce que la guérison physique, c'est quelque chose de temporaire. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'une fois qu'on va être mort, une fois qu'on va être ressuscité, qu'on va être avec Jésus, ça dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien de tout ce qui est pour nous un malheur aujourd'hui, ça n'existera plus. Et c'est ce qui est éternel qui compte avant tout. Et cette guérison-là qu'on peut obtenir physiquement, qui peut être un miracle ou peu importe, c'est vraiment génial dans notre corps aujourd'hui, mais il y a plus que ça. Parce que je peux être guéri aujourd'hui miraculeusement de ce qui se passe dans mon corps et m'éloigner de Dieu et de plus rien vouloir savoir de Dieu. Et si je fais ça, savez-vous quoi? Ma guérison physique ne veut rien. Elle ne vaut rien. Pourquoi? Parce que le but, ultimement, que Jésus est mort sur la croix, c'est pour ta guérison spirituelle. C'est pour que tu guérisses de ton péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est ce que Jésus veut réparer premièrement dans ta vie. C'est ton état spirituel. Dans Jacques 5, 16, ça dit, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Il dit ici, c'est pas, on parle encore une fois ici, pas d'une guérison nécessairement physique, mais l'idée est que notre péché nous rend malades spirituellement. Et ça nous dit, avouez donc vos fautes aux autres. Priez et vous allez être guéris, vous allez être réparés par Dieu spirituellement. Et si vous voulez mon avis, même si vous ne voulez pas, je vous le donne quand même. Je crois que c'est un des plus grands maux de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas guéris de leur péché. C'est que les gens ne confessent pas leur péché. C'est qu'il y a des gens qui vivent dans leur état de péché. Pourquoi? Parce que souvent, on retient des choses contre des gens, on est dans le colère, on a mal agi envers des gens, puis qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas confesser, souvent, on ne va pas confesser notre faute auprès des personnes. On garde ça pour nous, et à la limite, on répand ça, mais on ne confesse pas notre péché. Et ce péché-là spirituel fait en sorte que c'est ça qui cause des dissensions, des chicanes, des disputes et de toutes les sortes. Parce qu'on reste avec notre péché. Mais si Jacques dit, si tu es malade de ton péché, va vers les autres, va confesser ton péché, prie et Dieu va te guérir. Dieu va te pardonner. Et Dieu va réparer la situation. Dieu va réparer ta foi. C'est ce qu'il va faire. Mais des fois, notre foi se détériore, pas parce que Dieu n'est plus dans le décor, pas parce qu'on n'a pas assez lu notre Bible, pas parce qu'on n'a pas assez prié, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas confessé nos péchés. Et notre foi est mal en point, notre foi est malade, parce qu'on demeure dans cette situation-là, on entretient ça. Et on vit avec l'amertume et avec tout le reste des patentes qui sèment et qui atteignent notre foi et notre spiritualité. Et c'est ça qui met une barrière entre nous et Dieu. Dieu ne mettra pas de barrière entre nous et lui. Il est venu pour nous réconcilier à la croix, c'est ce qu'il a fait. Il nous a réconciliés au point tel, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est qu'au point tel où il dit, maintenant je fais de toi le temple du Saint-Esprit, l'Esprit vit en toi maintenant. Fait qu'il n'y en a plus de barrière. Si Dieu vient vivre en toi, on est d'accord qu'il n'y en a plus de barrière. Il n'y a plus ça. Mais nous, par contre, avec nos fautes, si on décide de continuer de vivre là-dedans, c'est nous qui pouvons mettre un frein et une barrière à ce que l'Esprit de Dieu veut et peut faire dans nos vies. Et c'est à nous de confesser. Parce que Dieu veut te réparer physiquement, mais aussi il veut te réparer spirituellement. Et ça, c'est essentiel et vital. Il est l'Éternel qui te guérit physiquement, mais il est l'Éternel qui te guérit spirituellement. Et aujourd'hui, un des maux de notre société, c'est que spirituellement, nous sommes malades. Et à cause de cette maladie-là, le reste de notre société en souffre. Et aujourd'hui, je peux être en forme pour faire un Ironman, je peux manger autant de verre que je peux, être en top shape, santé 100 000 à l'heure. Mais ça ne m'amène pas au ciel pour autant. Ça ne fait pas en sorte que spirituellement, je suis en shape. Ça ne fait pas en sorte que spirituellement, je suis bien groundé avec Dieu. Le corps, c'est une chose, mais après ça, l'esprit en est un autre. Et j'ai besoin autant de travailler sur ma vie spirituelle que sur ma vie physique. Parce que sinon, ça ne donnera rien au bout de la ligne. Comme je dis, moi, le corps dans lequel je suis, que tu sois satisfait ou non de ton corps, 99% des gens sont insatisfaits de leur corps. On le voit là, à la quantité de régimes, de trucs qui passent, de solutions miracles pour changer ton corps, de tous les trucs que tu peux, de façon plastique, modifier aujourd'hui ton corps. Tout est modifiable, tout est changeable. Des fois, on a l'impression que c'est comme un jouet, tu remplaces le bras qui est en plastique. Tout est possible. Pourquoi? Parce que les gens sont insatisfaits de leur corps. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas le même au ciel. Je m'attendais à plus que ça. Moi, je m'attendais à « ouais ». Si tu es insatisfait de ton corps, aujourd'hui, tu peux travailler autant que tu veux, tout ça, mais malheureusement, il va passer. Ce n'est pas là pour rester. Par contre, ton esprit, ton âme est là pour rester. On devrait porter cette attention-là sur le péché qui sévit dans nos corps, à notre intérieur. La semaine passée, dimanche matin, je m'en viens ici, j'aime ça arriver de bonne heure, prier, reviser mes notes et tout ça, et être sur place. Et pendant que je suis en train de faire ça, le téléphone sonne. C'est ma femme qui m'appelle. Elle dit, l'auto ne part pas. On a deux voitures. Une qui roule, avec laquelle je suis arrivé à l'église. Et l'autre notre caravane, 2012, 323 000 kilos. Il a roulé. On a roulé. Mais quand tu regardes le body, tu te fais comme, hey, quand même en shape. Un peu comme moi, tu te dis, hey, quand même, il n'y a pas si roulé que ça. J'ai roulé. C'est confirmé, on me dit que j'ai roulé. Mais si tu le regardes comme ça, c'est correct. Et on s'est entendu avec mon garagiste qu'on ne fait pas les grosses affaires mineures, on fait juste on fait l'entretien majeur, les affaires trucs pour essayer de l'étirer le plus possible. Et samedi, je fais juste sortir, on avait besoin de place dans le stationnement, je fais juste partir la vanne, je la recule, puis je la stationne dans la rue. Ça va bien? La semaine d'avant, j'arrive de faire mettre mes pneus d'hiver à l'avance, ce qui était très sage de ma part. Ça m'arrive, pas toujours, mais des fois, j'ai des bonnes idées. Changement d'huile, vérifie, dit « Ah, tout est beau. » Il n'y a pas de problème. Mais là, elle dit « Ça part pas, elle écoute ça. » Je dis « Voyons, il ne fait pas moins 40. » Mais je dis « Là, on s'arrange, réussi à emprunter l'auto de fille, de s'en venir ici, d'aller chercher Zoé qui était chez une amie, tout ça. » C'est un dimanche bien ordinaire. Quand les gens qui pensent pas « Ah, oh, les pasteurs, eux autres, ils vivent avec Jésus 24-7. C'est mollo, eux autres, ils vivent sur un nuage. » Bienvenue dans mon monde. Moi, là, j'ai dit, OK, gars, en arrivant, l'église va appeler le CAA, on va checker ça. C'était pas juste dans mes plans, il restait du linge à plier, l'épicerie n'était pas faite, on avait une fin de semaine de fou. Fait que, si tu penses que moi, je m'en vais le dimanche, puis lay down sur le divan, comme, oh, j'ai bien prêché la parole de Dieu, je peux enfin me reposer. Non. Non, non, la vie tourne. Et là, moi, j'ai ça en tête, j'ai comme, ah, non. Et là, tu te mets à penser, tu te dis, OK, c'est l'alternateur, là, ça va coûter, hein, qu'est-ce que ça va, le choc, comment ça? Et là, moi, il faut que je me présente pour prêcher en avant, frais comme une rose, puis prêcher comme si ma vie en dépend, en ayant ça à l'arrière. Fait que si vous pensez, vous dites, ah, moi, je viens, là, j'ai tel problème, on en a tous, et j'en ai aussi. Et là, j'arrive chez moi, j'appelle le CA finit par venir, et le gars me booste, puis il dit, ce qui s'est passé, c'est que tu as noyé ton auto. Noyé mon char. Voyons, comment? Il dit, ce que tu as fait là, il dit, c'était assez pour le noyer, tu l'as noyé. Mais il dit, là, il dit, j'ai starté ta batterie, mais il regarde, il dit, hey, ta batterie, c'est ta batterie d'origine. J'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est 2012. Il dit, OK, ouais. Puis il dit là, le domaine, 323 000 et quelques kilos. Oh, OK, elle a roulé. Il dit, bien, c'est ce qui fait qu'en fait, vu que tu as beaucoup roulé, ça a aidé ta batterie à recharger. Mais il dit, attends une minute. Il dit, je vais faire un test. Fait qu'il fait un test de la bebelle, l'iPad, puis tout, le full techno. Puis il dit, regarde, il dit, la charge de ta batterie est à 100%. Parce que je viens de te booster. Fait que là, tu vas pouvoir rouler aujourd'hui. Mais il dit, regarde, en dessous, il y a la ligne, c'est marqué santé, la batterie. La santé de ta batterie, c'était plus que dans le rouge. S'il y avait une autre ligne là, avec d'autres couleurs, là, elle aurait été là. Il dit, regarde, ta batterie est pleine parce que je viens de la booster. Mais elle est finie, raide. Il dit, les prochaines semaines, là, il va faire plus fort. Ton char ne partira jamais. Là. C'est fini, il faut que tu changes ta batterie. C'est un moindre mal. Mais quand tu regardes le véhicule, c'est comme, c'est quoi le problème? Tu le regardes dehors et tu fais comme, t'es encore en chaîne, tu peux faire 10 ans encore avec ça, ce char-là. Mais l'intérieur est complètement fini. Et c'est la même chose avec nous. Souvent, on s'attarde beaucoup à l'extérieur, puis comment est-ce que justement il faut qu'il y ait la santé, le physique et tout ça. Mais à l'intérieur de nous, si notre santé spirituelle est morte, il n'y a rien à faire. Même si le body a l'air bien en shape, à l'intérieur de nous, si la batterie est morte complètement, est malade, il n'y a rien à faire. Même si tu vas avoir juste, tu peux prendre 2-3 Red Bull, puis okay, go, on repart. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est en santé à l'intérieur. La santé physique, Dieu guérit et répare le physique. Dieu guérit et répare la spiritualité. Mais troisièmement, dans Jacques 5, les versets 14 à 15, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Encore une fois, le péché revient. Au verset 14, ou quoi? Le mot malade en grec est asthénie. Ça veut dire être faible. Bien que ce mot-là est également utilisé pour la maladie, mais dans plus particulièrement, entre autres, dans les Actes, dans les Éphésiens, quand il revient, c'est utilisé pour parler d'une foi faible ou d'une conscience qui est faible. Et non seulement d'une partie physique de notre corps qui est malade. Parce que Jacques est en train de dire, c'est que si tu es malade émotionnellement, on doit prier pour toi. Dieu est là pour te relever aussi. Verset 15, le mot malade, c'est kamonta, qui veut dire être épuisé, fatigué. Et quand je dis que souvent, quand on regarde à tous les moments où on parle de maladie, de guérison, on s'arrête souvent, malheureusement, à l'aspect physique, au body. Quand, en fait, souvent l'accent est mis sur ce qui se passe à l'intérieur. Ta batterie est morte. Tu continues de fonctionner, mais à l'intérieur, c'est mort. Ta batterie est faible. Tu es fatigué, tu es épuisé. Et c'est ce que Jésus veut guérir et réparer aussi. Réparer tes émotions. Parce que si tes émotions ne vont pas bien, je ne suis pas spécialiste, mais ça se pourrait bien que ta foi ne va pas bien non plus. Et si tes émotions, si ta batterie est à terre, ça se pourrait que le reste de ta vie traîne aussi. Tu marches, tu as l'air d'un beau body, tu es bien habillé, tu fais tout ce que tu as à faire. La semaine, tu vas travailler, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ça, de telle affaire. Il faut que tu fermes le terrain pour l'hiver. Tu fais tous tes trucs, tu es impliqué à gauche, à droite, tu fais ci, tu fais ça. Mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Émotionnellement, tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu es dans un état de faiblesse à l'intérieur. Et ça, personne ne le voit. Le psaume 147,3, il dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Jésus est venu pour guérir tes émotions qui sont brisées. Il est venu pour réparer à l'intérieur de toi ce qui ne fonctionne plus. Puis Scorsese a dit, « Demeurez avec Jésus dans vos pires moments. Faites confiance que ce qui semble être une catastrophe souvent devient la fondation pour une grande vie et une grande œuvre. » quand ça ne va pas émotionnellement, ce n'est pas le temps de balance. Souvent, des fois, c'est comme si on met Jésus de côté, on essaie de trouver, et il y a plein de gens qui peuvent nous aider, il y a plein de spécialistes qui peuvent nous aider, mais de balancer Jésus, je ne pense pas que c'est la meilleure, la bonne solution à faire. Parce que souvent, on a prié et on n'a pas eu la réponse à ce qu'on était. On n'a pas la transformation qu'on a voulu, on n'a pas la guérison qu'on a voulu. Puis là, on laisse tomber un peu, puis là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ailleurs. Mais de demeurer avec Jésus, malgré ça, c'est probablement la fondation pour le reste de notre vie, pour avoir quelque chose de meilleur et de grand dans ce que Dieu va faire dans chacune de nos vies. Et s'il fait dans ma vie, ça va avoir des répercussions à l'extérieur aussi. 1 Corinthiens 6, 12, ça dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Et c'est ça le point. C'est qu'à l'intérieur de moi, comment est-ce que je vais me laisser dominer par quoi? Parce que comme j'ai dit, je peux être, que je sois bien dans mon corps, que je n'ai pas de maladie ou que j'ai une maladie dans mon corps, il y a plusieurs scénarios à l'intérieur. Je peux être bien dans mon corps, puis à l'intérieur, je tout croche. Ça ne va pas bien. Je ne me sens pas bien avec moi-même, avec mes émotions. Je ne me sens pas bien avec les autres. Je suis en conflit, en questionnement, puis je vis de l'anxiété, je vis de l'angoisse et je vis dans les problèmes. Spirituellement, ça ne va pas bien. Je suis avec Dieu, puis ça ne va pas bien non plus avec Dieu. Mais je peux être en santé, physique et que ma santé émotionnelle et spirituelle aille bien. De l'autre côté, je peux être malade dans mon corps. Et là, je vais être malade dans mon corps et ça va m'affecter spirituellement. Ma maladie dans mon corps va m'affecter également émotionnellement. Et c'est là où je me laisse dominer par tout ça. Où je peux être malade dans mon corps puis être quand même en santé spirituelle et en santé émotionnelle. Pourquoi? Il y a une partie de moi qui doit décider, est-ce que je vais demeurer attaché à Jésus? Est-ce que je vais rester attaché à lui? Est-ce que je vais laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre malgré la situation qui m'entoure? Est-ce que je vais laisser Dieu me guérir? Me réparer physiquement, me réparer émotionnellement et me réparer spirituellement? Quelqu'un a dit, si vous ne faites pas face à vos démons, ils vont aller dans la cave de votre esprit et faire des haltères. Fait que si tu ne vas pas au gym, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Et j'aime cette image-là. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et dans nos émotions, on a le choix des fois, c'est difficile de se laisser dominer, de ne pas se laisser dominer par ce qui nous entoure et qui devient à l'intérieur des préoccupations, qui devient des angoisses et qui peut nous mener à. De ne pas se laisser dominer. Faut que tu fasses face à tes démons, à ce qui vient te hanter, à ce qui vient te chercher, à ce qui vient te tenter. Parce que si tu les laisses là, ils vont aller, puis eux autres, ils vont faire du bodybuilding, puis ils vont « knock it out » tantôt. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable est venu pour égorger, dérober et détruire. Fait qu'il va saisir ton moment de faiblesse, où tu ne t'es pas laissé réparer par Dieu, dans tes émotions et ta foi, et c'est là qu'il va te « knock it out ». C'est ce moment-là qui attend. Selon l'Organisme mondial de la santé, la dépression majeure deviendra en 2020 la deuxième cause d'invalidité chez l'humain, après les maladies cardiovasculaires. Cela constitue un bond phénoménal depuis quelques années. Notre société est malade. Notre société est malade. Et ce n'est pas parce que tu es dans l'Église aujourd'hui que tu es nécessairement en santé. La bonne nouvelle, c'est que si tu es ici, Jésus peut faire de quoi pour toi? Parce que Jésus est venu guérir. Il est venu réparer. Et que si tu as besoin d'une réparation physique, que tu aurais besoin d'une réparation émotionnelle ou spirituelle, Dieu peut te réparer aujourd'hui. Mais ces statistiques-là, c'est incroyable parce qu'on s'attarde aujourd'hui, la science, la médecine s'attarde à vouloir enrayer le cancer et que c'est une chose incroyable. Et toutes les maladies qui sortent, les nouvelles maladies, les trucs, il y a ça, des trucs rares. Et la science s'affaire à vouloir régler ça. Et c'est une bonne chose, il faut continuer à le faire. Mais là où on arrive dans un cul-de-sac, c'est quand ça se trouve à l'intérieur de nous. Là, on a moins d'efficacité. Là, on peut moins rien. On peut aider, on peut soutenir, on peut accompagner. Il y a des thérapies, il y a des médicaments, il y a toutes sortes d'affaires. Mais sauf qu'au final, ça prend une plus grande réparation que ça. Et seul Jésus peut arriver à réparer. complètement ce qui est brisé dans ta vie. Ça, Jésus peut le faire. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Matthieu 11, versets 28 à 30, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Assez surprenant que ce que Jésus va dire va inviter les gens à venir à lui. Pourquoi? Pour avoir cette réparation-là intérieure. Il parle de la même chose que dans Jacques, il dit, pour ceux qui sont fatigués, qui sont épuisés, si tu es malade dans tes émotions, si tu es malade dans ton intérieur, si tu es malade dans ta foi, viens à moi. Et souvent, on s'arrête là, parce que le passage, on dit, ok, Jésus dit, viens à moi, toi qui es chargé, qui es fatigué. Et souvent, on va s'approcher de Jésus, puis on va dire, Seigneur, va justement, guéris-moi, fais ton œuvre à moi. On s'approche de lui pour recevoir sa grâce et son amour. Et c'est une bonne chose, c'est le premier pas. Mais ici, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, par la suite, il dit, « Laissez-vous instruire par moi. » Ça, c'est le bout qu'on ne lit pas souvent. Parce que le bout après, où ça parle, que justement, moi je suis doux et humble de cœur, et ainsi de suite, je vais vous donner du repos, c'est lié au fait qu'il dit, « Mais en fait, laissez-vous instruire par moi. » En Matthieu 7, il va parler de la maison qui est bâtie sur le sable et l'autre qui est sur le roc. D'après moi, celui qui a écrit les trois petits cochons, il s'est basé là-dessus. Et il va dire, celui qui n'a pas de fondation, celui qui n'a rien, la tempête va venir puis la maison va s'écrouler. Il n'y a plus rien. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est lui que sa maison va être solide. Mais qu'est-ce que Jésus dit à la fin de ça? Il dit, vous êtes heureux, pourvu que vous mettez mes principes en pratique. Et c'est ce que Jésus dit ici. Laisse-toi instruire par moi. Ce n'est pas juste d'accepter Jésus dans ta vie. C'est de dire, bien maintenant, je veux marcher avec toi. Je vais apprendre tes préceptes, je vais apprendre de toi. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut qu'ils changent. Tu as des nouvelles habitudes, il y a des nouveaux trucs. Pourquoi? Parce que, oui, Dieu t'a guéri. Mais si tu veux continuer à marcher sainement, spirituellement, émotionnellement et physiquement, il va falloir que tu sois instruit à quelque part. Il faut que tu laisses Jésus faire son œuvre dans ta vie. Ce n'est pas j'accepte Jésus puis je continue de faire les choses n'importe comment, comme je veux. C'est confirmé, on me le confirme à l'oreille à l'instant, ça se pourrait que tu continues d'être brisé. Ça se pourrait. Ça se pourrait que tu continues d'être brisé. Puis tu dis, hey, Seigneur, tu ne me répares pas. Tu ne veux pas que je te répare. C'est ça la réponse. Ce n'est pas que Jésus ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire. C'est que des fois, nous, on ne veut pas la réparation. Je retourne à mon gars. Super sympathique. Ben, de loin, un dimanche après-midi, le gars était vraiment fin. Il a vraiment pris du temps. J'ai comme, wow, c'est A. Respect. Et le gars, il dit, je peux, si tu veux, il dit, moi, je ne fais pas d'argent, tout ça. C'est même si tu es un membre CA, je te fais un rabais, puis je te paye, ça ne te coûtera rien pour l'installation. J'en ai dans mon camion des batteries. C'est quoi les chances? Et je dis, bien, écoute, on va régler ça là. Je viens de me sauter un problème de moi-même, aller chez Canadian Tire, trouver la bonne batterie, enlever la bonne batterie qui, by the way, une batterie, c'est gros de même, là. C'est un monstre. D'après moi, on pourrait plugger Lumière de la Ville de Québec, puis ça marche là-dessus. Et là, il dit, je peux te le faire là, puis ça a pris 5 minutes, il a changé ma batterie, puis tout ça. Mais j'aurais pu dire, ton iPad, là, c'est n'importe quoi. Charles Barr, là, ton affaire, là, c'est une passe-passe. Là. La santé de ma batterie dans le rouge. Yes! J'aurais pu refuser. Le gars, il n'était pas, lui, pas de commission, pas rien. Lui, il repart chez eux. Il y a des bonnes chances que 3 jours après, je le rappelle. Bonjour, CA, j'ai encore besoin de vous. Mais c'est un peu la même chose. Avec Dieu, Dieu ne vient pas et il est comme, hey, ta batterie est à terre, je la change right now. Non? Veux-tu que je te la change? Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose avec Dieu. Dans Romains 12, 12, ça dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et le point à la fin, c'est ça. Le point à la fin, c'est ça. C'est que souvent, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout doit être maintenant, tout est instantané. Le micro-ondes. Et on vit dans un monde de micro-ondes. Mais le micro-ondes, c'est bon pour réchauffer, c'est pas bon pour cuire. Moi, ce qui me choque, c'est quand je prends un emballage de quelque chose, puis ça me dit, voici les trois façons dont vous pouvez cuire cet aliment-là. Barbecue, four conventionnel, micro-ondes. C'est pas fait pour... Qui cuisine? Non. La réponse, c'est non. C'est non, c'est juste pour réchauffer. Et souvent, on arrive avec Dieu, puis on fonctionne de la même façon. On arrive avec nos prières, puis on dit, « Hey, Seigneur, j'ai besoin d'être réparé ici. J'ai besoin d'être guéri là. » Bip! On part. Puis on attend. Oh, oh, c'est prêt. On pense que c'est comme ça. Et c'est là où on est déçu avec Dieu. Est-ce que Dieu peut le faire instantanément? Oui, il peut le faire. Des fois, il ne le fait pas instantanément. Pourquoi? Bonne question. Mais ici, l'apôtre Paul, et vous lirez pour vous-même, dans la majorité des écrits de l'apôtre Paul, il revient avec cette idée-là de persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Paul, il n'a pas eu toutes ses prières répondues comme ça. Mais il a appris que c'est toute ma vie que je vais marcher avec Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais solutionner tous mes problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais juste obtenir la grande réparation. Mais j'ai besoin de continuer à être quoi? Patient dans la détresse. Et de se réjouir dans l'espérance, parce que Dieu va intervenir, mais de persévérer dans la prière. Et de ne pas jouer le jeu de notre société qui vit avec le micro-ondes. Le micro-ondes n'existe pas avec Dieu. Dieu ne fait pas de réchauffer. Tout ce qu'il fait, c'est numéro un. On va baisser nos têtes quelques instants, on va fermer nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et peu importe ce qu'on peut vivre, peut-être que ce matin, je suis brisé dans mon corps, je suis malade. Peut-être que spirituellement, je suis brisé. J'avais mis de côté, j'ai joué à l'autruche un peu, mais oui, c'est vrai. J'ai des péchés dans mes vies avec lesquels je me laisse dominer. Je vis certains esclavages dans ma vie, des trucs avec lesquels je des dépendances auxquelles je suis pris. J'ai besoin d'être réparé spirituellement, Seigneur. Et peut-être que c'est dans mes émotions. Ma vie à l'intérieur est une tempête. Mes pensées, mon cœur, c'est une tempête. Je ne vais pas bien. À l'extérieur, le body montre d'autres choses, comme si je suis en contrôle, je suis en pleine forme. Mais à l'intérieur, j'ai besoin d'être réparé. Je suis fatigué, je suis faible. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu es venu pour guérir. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui répare autant mon corps, mon âme, que mon esprit, que mon cœur. Et c'est ce que je veux que tu fasses ce matin dans ma vie. Ce matin, si vous vous trouvez dans une de ces situations-là, que vous avez besoin de prière, j'ai invité l'équipe à venir me rejoindre et juste vous avancer. Simplement, on va prier. Ce n'est pas la personne qui guérit qui fait la différence, c'est la prière. Parce que c'est Dieu qui le fait. Mais ce matin, pendant que les musiciens vont nous conduire dans un chant, si vous avez besoin de prière pour une guérison physique, une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, avancez-vous et on va prier pour vous ce matin.